Merci Samuel, et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être parmi vous ce matin. Merci d'ouvrir votre Bible à la page dans le psaume 1, qui se trouve à la page 369. Psaume 1, page 369. Et je crois que vous avez aussi un plan à l'intérieur de ce dépliant, si vous souhaitez le suivre. Psaume 1, page 369 des Bibles d'Église. Et je vais lire. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Alors, je ne vous connais pas tous, je connais certains ici, mais je ne connais pas tout le monde. Donc, j'aimerais faire une petite enquête pour apprendre à mieux vous connaître. C'est le début des vacances scolaires et peut-être que tous ne sont pas concernés, mais j'imagine que certains le sont. Levez la main si vous allez prendre quelques jours de vacances. Quelques-uns. Aller au ski? Est-ce que certains vont aller au ski? Non? Dommage. Bon. Qui prévoit, pas besoin de partir pour faire ceci, qui prévoit de manger quelques bons repas avec des amis ou de la famille? Ouais, c'est bien, voilà. De faire du sport? Moins de personnes que celles qui vont manger des bons repas, c'est... Voilà. Qui prévoit de faire une de ces activités parce que vous pensez qu'elle vous rendra malheureux? Malheureux. Bah, personne, ce n'est pas très étonnant. Généralement dans la vie, on fait rarement des choses simplement pour se rendre malheureux. Généralement dans la vie, tout le monde veut être heureux. C'est vrai que de temps en temps, on rencontre des personnes un peu mélancoliques qui semblent choisir d'être malheureuses. Mais même ces personnes-là qui paraissent tout le temps mélancoliques, bah, si on leur posait la question « Voulez-vous être heureux ?», nous répondraient bah, « Oui, bien sûr que je veux être heureux. » Je pense qu'elles auraient même des idées assez précises sur ce dont elles pensent avoir besoin pour être heureuses. En France, apparemment, les ingrédients essentiels pour le bonheur, ce serait le fait d'être en bonne santé, d'avoir une vie de couple harmonieuse et d'avoir un emploi stable. Tout le monde veut être heureux. Là où ça bloque, c'est sur la question de comment. Ce matin, je vous propose de réfléchir à la place de la parole de Dieu dans notre vie. Et le texte que je vous propose d'étudier nous explique justement comment être heureux. Quel est le bonheur authentique et comment l'atteindre? C'est un psaume, c'est-à-dire un cantique ou un poème qu'on trouve dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et quand nous l'avons lu à l'instant, je me demande si vous avez remarqué quel était le premier mot de ce psaume. Peut-être que certaines traductions, si vous utilisez une traduction un peu différente de celle que nous avons sur les chaises, certaines traductions ont le mot « béni », d'autres... ont le mot « bienheureux », tous des mots qui font très religieux. Mais dans la version qui nous a été lue, ce psaume commence par le mot « heureux ».« Heureux l'homme qui ?» 3 points de suspension. Et c'est sans doute le meilleur choix de traduction. Ce psaume a été écrit pour nous montrer comment être heureux. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai l'impression que notre société est vraiment obsédée par la quête du bonheur. Il suffit de regarder les kiosques à journaux et on voit toujours des dossiers dans les magazines sur comment être mieux dans sa peau, moins pessimiste, comment retrouver le sourire. Quelques exemples que j'ai croisés cette semaine, et je ne lis pas forcément ces magazines, mais juste vu les titres. Cosmopolitan, des compliments, de l'amour, de l'argent, du respect, j'y ai droit. Philosophie Magazine, comment retrouver le contact avec le monde. Cette idée que c'est grâce au retour à la nature qu'on va retrouver le bonheur. Psychologie Magazine, oser être soi. Quelques exemples. Mais si le psaume 1 était un magazine, il aurait pour titre « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Il doit y avoir quelque chose qui cloche. Ça ne peut pas être ça. Parce que peut-être pour vous, Bible et bonheur ne vont pas vraiment ensemble, ou peut-être simplement parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Béni, d'accord, ça fait religieux. Bienheureux, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc ok. Mais heureux, vraiment. Et c'est vrai qu'à force d'être bombardé de tous les côtés, dans la publicité, dans les médias, par des promesses de bonheur, ben, on peut facilement devenir sceptique. Mais Dieu fait une promesse dans ce psaume, et Dieu est bien plus fidèle que Psychologie Magazine ou je ne sais quelle agence publicitaire. Et la voici, verset 1, « Heureux l'homme qui, verset 2, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce bonheur? Tout d'abord, soyons clairs sur la nature du bonheur en question. Et la première chose à noter, c'est qu'il ne s'agit pas, il me semble, d'une émotion. On ne parle pas du fait d'être de bonne humeur tout le temps. Si on lit les psaumes, on est justement frappé par la diversité d'émotions différentes qu'on y trouve. Le sentiment de faiblesse, l'inquiétude, l'angoisse, la tristesse, la culpabilité et la joie. Toute la gamme des émotions humaines et dans les psaumes. Mais le psaume 1, qui est un petit peu comme la porte d'entrée du livre des psaumes et qui campe le décor, introduit un thème, celui du bonheur authentique, qui est un peu un des grands fils conducteurs du livre des psaumes. Et il nous dresse le portrait de la personne qui, au cœur même de la difficulté, au cœur même de la tristesse, même quand elle connaît des revers ou des déceptions, est pourtant heureuse. Voyons ça en deux temps. Premièrement, la source du bonheur et ensuite le signe du bonheur. Premièrement, la source du bonheur. Regardez, s'il vous plaît, le verset 2. L'homme qui dit, cet homme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Souvent, on a l'impression de vraiment connaître une personne seulement lorsqu'on a compris ce qui lui fait plaisir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un mariage ou à une soirée et vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas auparavant et vous avez l'impression que faire la conversation avec cette personne-là, c'est un peu fastidieux. C'est un peu ennuyeux, un peu pénible, on ne sait pas trop comment faire pour briser la glace, jusqu'à ce qu'on découvre ce que la personne aime le plus dans la vie. Ses intérêts, ses activités préférées. Et tout de suite, on a l'impression de mieux connaître la personne et ça devient plus facile de discuter. Vous avez certainement toujours plein de sujets de conversation, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens se démarquent grâce à ce à quoi ils prennent plaisir. Et c'est la même chose avec l'homme dans ce psaume. C'est seulement lorsqu'on comprend ce qui lui fait plaisir ou ce à quoi il prend plaisir qu'on arrive à le cerner. Et lui, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et c'est dit à la fois négativement et positivement. D'abord négativement. Regardez le verset 1. Cet homme heureux, c'est celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cette personne a pris une décision. Elle a décidé que ce ne sera pas chez ceux que le psaume appelle les méchants qu'elle va trouver son plaisir. Et cette décision n'a pas dû être facile à prendre parce que je ne crois pas que les méchants ici soient des criminels ou des meurtriers. Dans les psaumes, les méchants, ce sont simplement ceux qui rejettent Dieu. Les méchants, ce sont ceux qui ils sont parfois appelés les moqueurs aussi. Ce sont ceux qui vivent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu, qui n'ont rien à faire de Dieu. Et l'homme dans ce psaume aurait pu penser que ceux qui s'amusent le plus, au final, ce sont justement ceux qui n'ont rien à faire de Dieu. C'est un peu un des clichés de notre époque. Si on veut être heureux, il ne faut pas trop s'embêter avec Dieu, parce que lui, il va juste nous imposer des contraintes. Si on veut être bon, peut-être que là, Dieu peut nous aider. Si on veut être pieux, peut-être que Dieu peut nous aider là aussi. Mais pas si on veut être heureux. Si on veut s'amuser, Dieu n'entre pas dans l'équation. Et si vous êtes comme moi, ça peut être très tentant de penser de cette manière-là. Mais l'homme dans ce psaume ne croit pas à ce discours-là. Il a décidé qu'il ne va pas suivre le conseil des méchants, qu'il ne va pas s'arrêter sur la voie des pécheurs ou s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il n'est pas dupe du discours de ceux qui vivent dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Il y a une autre voix qu'il préfère écouter. Verset 2, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Quelle est donc la source du bonheur authentique ? C'est la méditation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la méditation ? Ce n'est pas, il me semble, ce qu'on entend souvent par méditation dans le langage courant. Aujourd'hui, la méditation, c'est assez à la mode. Il y a même des applis pour smartphone qui nous apprennent à méditer. Et souvent, ce qu'on entend par méditation aujourd'hui, c'est le fait de se vider l'esprit. On met de côté nos préoccupations. Et puis, grâce à différentes techniques de respiration ou de concentration, ce genre de choses, on essaie de trouver un état de sérénité et de tranquillité. On parle parfois de la pleine conscience. C'est une méditation qui a peut-être des bienfaits psychologiques, mais qui reste au final centrée sur soi-même. Mais la méditation dans ce psaume et dans la Bible de manière générale, ce n'est pas ça. La méditation biblique est centrée non pas sur soi-même, mais sur la parole de Dieu. Et il s'agit non pas de vider son esprit, mais plutôt de le remplir. Lorsque l'auteur de ce psaume parle de la loi de l'Éternel, il pense probablement aux cinq premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle parfois la Torah, et puis peut-être aussi il pense aux psaumes eux-mêmes. Et il pense au fait de se remplir l'esprit de l'enseignement de ces livres-là. Imaginons un homme israélite qui va au temple à Jérusalem et qui écoute la lecture de ces livres. Et puis quand il repart, il est toujours en train d'y réfléchir. Le lendemain, il est dans son champ et il est en train de travailler la terre, mais il y pense encore. Et puis sur son lit, la nuit, il cogite toujours parce qu'il veut vraiment, vraiment comprendre ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Dieu nous dit ça ? Qu'est-ce que ça change ? Peut-être qu'il a entendu la lecture des promesses que Dieu avait faites à Abraham, par exemple. Et il réfléchit toute la journée et puis il se dit « Ouah, mais Dieu fait vraiment des promesses merveilleuses. » Je veux vraiment bâtir ma vie sur ces promesses-là. Ou peut-être qu'il a entendu l'histoire de l'Exode, comment Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte. Il passe sa journée à y réfléchir et puis pendant la nuit, il se dit « Waouh, mais quel grand Dieu qui sauve son peuple par sa grande puissance. Ça, c'est un Dieu auquel je peux faire confiance. » Ou peut-être qu'il a écouté les 10 commandements. Il passe la journée à y réfléchir et puis il se dit « Mais ce Dieu-là est vraiment bon. C'est ça le Dieu que je voudrais connaître. Et nous aussi, même si on vit à une autre époque, ben on peut réfléchir aux promesses de Dieu. On peut se remplir l'esprit des promesses de Dieu. Dieu nous promet, que Jésus va revenir, qu'il va essuyer toute larme et qu'il va instaurer un monde parfait. On peut méditer sur comment ce sera. On pourrait même, dans un élément de cette méditation-là, ça pourrait être le fait de faire une liste de toutes les choses que nous avons hâte de vivre quand Jésus sera revenu. Je ne sais pas quelle chose figurerait sur votre liste, voici la mienne. Pouvoir boire les meilleurs vins sans casser le compte en banque. Battre mon record sur les 10 km course à pied. Certains ici probablement arrivent déjà à le faire. Avoir des relations toujours apaisées. Ne plus être fatigué, particulièrement dans le cas des parents peut-être. Discuter avec Jésus face à face. Méditer sur les promesses de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. C'est un peu comme un enfant qui attend Noël et qui, des semaines avant, s'imagine déjà en train d'ouvrir ses cadeaux. Bah, comme lui, nous aussi, on peut méditer sur les bonnes choses qui nous attendent. On peut méditer sur les promesses de Dieu, on peut aussi méditer sur les actes de Dieu. Pour l'Israélite de l'Ancien Testament, le plus grand acte de Dieu, c'était la libération de l'esclavage en Égypte. Mais pour nous, c'est un acte plus grand encore. La libération accomplie par Dieu à travers Jésus-Christ, qui s'est fait chair, qui a mené une vie parfaite, qui est mort à la croix pour porter la colère de Dieu contre nous et puis qui s'est relevé d'entre les morts. Je me demande quand c'était la dernière fois que vous avez pris le temps de méditer là-dessus, de méditer sur le fait que nous sommes au bénéfice de cette grande œuvre-là. Et on peut méditer nous aussi sur le caractère de Dieu. Les Israélites en avaient le portrait dans la loi, dans les 10 commandements, mais nous le voyons encore plus clairement en Jésus. Jésus qui nous dit « Quiconque m'a vu a vu le Père ». Donc, qu'est-ce que la méditation biblique ? Ben, c'est simplement réfléchir sur tout ce que Dieu nous révèle dans les pages de l'Écriture pour s'en nourrir. C'est réfléchir sur tout ce que Dieu nous révèle dans les pages de l'Écriture. Un autre mot pour la méditation, ça pourrait être la rumination. Comme une vache qui mâche sa nourriture pendant des heures et qui la retourne dans sa bouche pour en retirer tous les nutriments. Méditer, c'est un peu pareil. On retourne la parole de Dieu dans notre esprit pour bien la digérer. Ou si vous êtes trop parisien pour les illustrations agricoles, méditer, c'est un peu comme s'inquiéter de quelque chose. Voilà une illustration bien parisienne. Quand on s'inquiète d'une situation, on y pense tout le temps. On réfléchit à tous les issues possibles. Méditer, c'est un peu pareil, mais sans le côté désagréable. L'objet de nos pensées, c'est la parole de Dieu. Et ce à quoi on réfléchit, c'est aux implications de ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire en se posant des questions comme « Pourquoi est-ce que Dieu a mis ce passage dans la Bible ? Quel était son objectif et quelles sont les implications pour ma vie ?» Par exemple, on pourrait méditer sur ce psaume, dont l'objectif, c'est de nous dire que le bonheur authentique passe par la méditation de la Bible, et la conséquence qu'on en tire, c'est qu'on devrait accorder la priorité à cette activité-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ben, je pense que concrètement, ça veut dire que c'est très important d'avoir un moment régulier pour lire la Bible et pour vraiment s'imprégner du regard de Dieu sur notre vie. Pourquoi pas tous les jours ? L'important, c'est de se donner les moyens d'intégrer le message du passage ou du texte qu'on a lu de façon à pouvoir continuer à y réfléchir au cours de la journée. Comment le faire ? À quel moment ? Pendant combien de temps ? Bah, ça, c'est à chacun d'en décider. Je vous donne mon approche, pas parce que c'est un modèle, mais juste peut-être que ça peut donner quelques idées. Quand je me lève, je lis un passage de la Bible pendant que je fais mon café. Souvent, je suis encore un peu dans le brouillard. Mais j'essaie de lire et de m'en imprégner. Et puis, quand j'ai déposé les enfants à l'école, et quand je suis en vélo pour aller à là où je travaille, j'y réfléchis et je prie, en gardant les yeux ouverts, parce que c'est mieux quand on est en vélo. Mais votre routine sera différente. Et si on pense, mais l'essentiel, c'est de savoir que si on pense que c'est important, bah, on se donnera les moyens de le faire. Ah, mais c'est compliqué, je n'ai pas le temps de dire à quelqu'un. Ok, mais même si vous avez des journées chargées, à mon avis, vous prenez le temps de vous habiller avant de partir travailler. Pourquoi ? Bah, parce que vous pensez que c'est important de vous habiller avant d'aller au travail. Vous ne vous posez même pas la question de ne pas le faire. Même chose avec la parole de Dieu. Si je pense que c'est important d'avoir le temps de la lire et la méditer, bah, je vais me donner les moyens de le faire. Si je ne le fais pas, bah, je dois me poser la question, est-ce que je crois vraiment à cette promesse du psalmiste ? Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ok, dira quelqu'un d'autre, mais c'est difficile. Souvent, j'ai du mal à comprendre ce que la Bible dit. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile. Et je pense que Dieu a fait exprès de rendre les choses comme cela parce qu'il veut qu'on y consacre une bonne dose d'énergie mentale. Toutes les choses importantes dans la vie demandent un effort. Mais si cette difficulté nous bloque, bon, on peut prier pour cela et on peut en discuter parce que c'est ensemble qu'on va s'encourager les uns les autres à vraiment tirer profit de cette ressource vitale que Dieu nous donne. La source du bonheur, méditer sur la parole de Dieu. Et ensuite, le signe du bonheur. À quoi ressemble ce bonheur authentique ? Regardez les versets 3. Le psalmiste nous dit de l'homme heureux qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, je suis originaire d'un pays où il pleut pas mal et là-bas, ce n'est pas l'eau qui manque pour que les arbres puissent grandir. Et je me souviens que la première fois que mon épouse est venue me rendre visite, qu'elle a été frappée par combien l'herbe était verte. Comment se fait-il que l'herbe soit aussi verte ? Ben, chérie, c'est parce que c'est très, très bien arrosé. Mais je ne pense pas qu'en écrivant ces mots, le psalmiste ait imaginé un arbre dans ce pays-là. À mon avis, il pensait à un arbre, peut-être un figuier, qui grandit sous la chaleur écrasante du Moyen-Orient, où il pleut seulement quelques fois par an. Et si malgré la chaleur, malgré la poussière et la sécheresse, l'arbre arrive à grandir, bah, c'est simplement parce qu'il est planté à côté d'un ruisseau et l'arbre envoie ses racines pour aspirer l'eau qui passe. Et c'est une image, une très belle image de la personne qui puise dans la parole de Dieu, qui la médite parce qu'elle considère qu'elle en a vraiment, vraiment besoin. Un figuier au Moyen-Orient meurt sans eau. Et c'est dire combien la parole de Dieu est vitale dans nos vies. Alors donc, quel est le signe de ce bonheur authentique ? Eh bien, il me semble que c'est le fruit que porte la personne qui a trouvé son plaisir en la parole de Dieu. Alors voyons d'abord quel est ce fruit. Et je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Certains ont lu ces versets, le verset 3 notamment, et ont compris par là qu'il s'agit d'une promesse de réussite dans tous les domaines. Ils ont compris que si on est chrétien, eh bien, ce type de verset nous promet qu'on va forcément réussir dans tous nos projets de carrière, réaliser tous nos rêves, devenir riche, être aimé par tout le monde. Ce n'est pas ce que dit ce psaume, il me semble. Un figuier porte des figues parce qu'il a été créé pour porter des figues. Les êtres humains ont été créés pour vivre en relation avec Dieu. Et donc les fruits que Dieu veut qu'on porte, eh bien, c'est une vie qui honore Dieu. C'est une relation avec Dieu qui l'honore. Pas forcément tout réussir dans notre carrière ou devenir riche, c'est bien meilleur que ça. On a été créé pour une relation avec Dieu. Et donc le bonheur qu'il nous promet réside dans le fait de connaître ce Dieu par le moyen de sa parole et de porter des fruits qui manifeste une transformation à l'image de Jésus-Christ. Et ça va se manifester par des choses très banales. Arriver à être content avec peu. Ne pas tout le temps se plaindre. Éviter de parler dans le dos des autres. Des choses banales, mais peut-être aussi des choix au niveau de notre orientation générale dans la vie, peut-être le fait de vivre pour les priorités de Dieu, le progrès de l'Évangile, la croissance de son Église, plutôt par exemple que pour notre confort, juste un exemple. Et donc ça veut dire que ce bonheur que Dieu nous promet, ce n'est pas un sentiment, toujours être de bonne humeur si on est chrétien, on aura des moments de blues. Il ne s'agit pas d'une situation, avoir tout ce dont la société dit qu'on a besoin pour être heureux, c'est plutôt le fait de laisser notre relation avec Dieu envahir et transformer tous les domaines de notre vie. En un mot, c'est le fait de vivre de plus en plus pour ce qui est vraiment essentiel, ce pourquoi Dieu nous a fait. Imaginons que l'homme dans ce psaume a des amis qui commencent à très bien réussir leur vie selon les critères de leur époque. Leurs troupeaux se multiplient, ils achètent de nouveaux champs, ils construisent de belles maisons. Eh bien, à vue humaine, on dirait que c'est plutôt eux qui ont porté des fruits. Selon les critères du monde, c'est eux qui ont prospéré. Mais s'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu, écoutons le verdict du psalmiste sur leur vie. Verset 4. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ainsi, l'image du moment de la moisson, et c'est le moment où on ramasse les épis de blé. Et puis la paille, c'est juste ce qui reste. Et puis le vent arrive et il la balaye. De la même manière, ceux qui n'ont pas trouvé leur plaisir en la parole de Dieu, même s'ils paraissaient avoir tout, sont pourtant sans ancrage et sans fondement. Et c'est pourquoi, verset 5, les méchants ne résistent pas dans le jour du jugement. La Bible parle d'un jour où Jésus reviendra pour juger tout homme et toute femme qui a jamais vécu. Et ici, ce jugement est comme ce vent qui vient balayer tout ce qui n'était pas enraciné dans un terrain solide. Il viendra confirmer que ceux qui ont recherché le bonheur ailleurs qu'en Dieu, même s'ils semblaient avoir tout réussi, était en fait sans ancrage et sans avenir. Terrible de penser qu'on pourrait consacrer des années, des décennies, en consacrant de l'argent, du temps et tous nos efforts pour construire une vie qui est juste la paille. Sans ancrage et sans avenir. Mais le bonheur de l'homme heureux vient du fait de savoir qu'il a un ancrage, il a un fondement, il a une espérance grâce à sa relation avec Dieu. Verset 6, l'Éternel connaît la voie des justes. Et donc ne soyons pas dupes. Ce n'est pas, ne tombons pas dans le piège de croire au discours qui nous dit que c'est ailleurs qu'en écoutant la voix de Dieu qu'on sera heureux. Ce serait un piège terrible, un mensonge terrible à avaler. Je résume avant de terminer. La source du bonheur, trouver son plaisir en la parole de Dieu et la méditer, le signe du bonheur, une vie transformée par la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes du genre à profiter des vacances pour faire un peu le bilan et à réfléchir à vos objectifs pour les mois à venir. Laissez-moi vous suggérer un objectif qu'il faudrait être fou de ne pas adopter. L'objectif qui consiste à poursuivre le bonheur. Pas à la manière du monde qui nous entoure. Ça mènera tôt ou tard à la déception. Non, l'objectif de poursuivre le bonheur en trouvant notre plaisir dans la parole de Dieu et en la méditant jour et nuit. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que tu veux ce qui est vraiment le meilleur pour nous. Merci parce que la vie éternelle, c'est le fait de te connaître Et merci parce que cette vie éternelle, nous l'avons déjà si nous avons placé notre confiance en Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à vraiment sonder toutes les profondeurs de cette relation que tu nous as proposée, qui est la nôtre par la foi, et à découvrir et expérimenter ce bonheur qui est le nôtre si nous avons cru en Jésus et si nous nous engageons à prendre plaisir en ta parole. Apprends-nous ce que ça veut dire, apprends-nous à pratiquer cette méditation de ta parole, apprends-nous à vraiment y prendre plaisir et apprends-nous à être prêt à dépenser de l'énergie pour y arriver, même quand cela nous paraît pénible dans un premier temps ou difficile. Permets-nous tous, ensemble, de connaître et nous réjouir de ce bonheur que tu nous offres. Au nom de Jésus. Amen.